France Culture.
À voix nue, une série de Sylvie Goudbaron et
Marc Elst.
Cette série à voix nue vous est consacrée, Marc Elde, jeune homme toujours fringant et élégant, né en 1932, dont la vie est marquée par une énergie poétique inépuisable et un désir de savoir, de créer et de transmettre toujours mobilisé. Connu pour avoir été l'un des chefs de file du design en France, vous êtes revenu à l'architecture pour rester libre. Visionnaire, votre engagement pour la biocroissance attire la jeune génération d'architectes. Quand vous donnez une conférence, les amphis sont pleins. On aime l'humaniste que vous êtes et avez toujours été. Vous n'avez jamais cédé aux sirènes de la production intensive, celle qui nuit à notre société plutôt qu'elle ne la sert. Vous êtes resté au service de la belle ouvrage et de la noblesse de l'artisanat. C'est une politique qui mêle éthique et esthétique, politique que vous vous employez encore aujourd'hui à porter haut et fort, hier, ici et là, aujourd'hui au Sénégal, une autre de vos patries. En résumé, une vie strong et sous haute tension. Ce sont tous ces fils que nous allons explorer, vous et moi, et nous verrons que cela tient bien, très bien même, disons, du grand style. Votre livre « Rêvons d'une ville nouvelle » paru en 2022 chez Parenthèse est un véritable programme politique. Nous y reviendrons bien sûr au cours de notre conversation. Bonjour Marc Elde.
Bonjour.
Alors aujourd'hui c'est le premier épisode de cette série je l'ai intitulé « La machine à remonter le temps, des origines à l'âge du premier souvenir ». Quel est votre premier souvenir Marc Elde ?
Alors mes parents et moi habitions dans une sorte d'immeuble en étage. Et je devais avoir, je sais pas, peut-être 4 ans, 5 ans. Et on entend dans la rue un chanteur des rues. Il y avait encore des chanteurs des rues à l'époque. Et ma mère prend une pièce de monnaie, l'entoure dans un petit morceau de papier journal et me dit « Donne-lui ça ».
Ça, c'est le premier souvenir. Oui. C'est à Paris et on est en 1936
35, quelque chose comme ça.
Cette enfance, donc elle est marquée évidemment pour vous par, je crois que vous remontez à l'origine de votre famille, à l'origine de vos parents qui viennent, vous allez le raconter. Et votre père vient de Hongrie.
Mes parents appartenaient à cette génération des gens nés aux alentours des années 1906-1909 pour mon père et qui appartenait à des communautés juives d'Europe centrale, alors qu'étaient la Russie, la Pologne, l'Ukraine, et qui avaient le rêve, plusieurs rêves, le rêve de l'Amérique, partir. Je pense souvent au film d'Elia Kazan, America, America. J'ai retrouvé là tout à fait le climat qui régnait chez eux, au moins pour ce qu'ils m'ont raconté. L'Amérique, et puis quand même, la grande, grande passion, c'est changer le monde, en faire un monde plus juste, plus fraternel, plus beau aussi. C'était profondément ancré dans ces communautés-là. Voilà. En troisième, l'art, bien sûr, la beauté, l'harmonie. Voilà peut-être ce qui était à la base de tous leurs engagements durant toute leur vie, d'ailleurs.
Une chose m'intéresse, dont vous parlez assez peu, et ça m'intrigue beaucoup. Quelle était la langue que vous parliez chez vous ?
Alors, mon père est né en Hongrie, ma mère en Pologne, ne parlait pas la même langue. Mon père ne connaissait pas un mot de yiddish. J'aurais peut-être l'occasion d'expliquer pourquoi ma mère, oui, parlait le polonais. Elle est la seule de la famille à avoir été au lycée polonais. Et donc, leur grande crainte, lors de leur station définitive en France, c'était que leur fils ne parle pas un bon français et ils n'ont pas parlé leur langue avec moi, jamais. Donc voilà, je ne connaissais pas la langue de mes parents. J'ai été élevé avec des parents parlant avec un accent très fort. Mon père, un accent hongrois. À la fin de sa vie, il avait quoi, 90 ans, parlait encore hongroise avec énorme accent. C'était trop marrant. Et ma mère, son accent polono-yiddish.
Alors, on avance un peu dans le temps. Vous êtes un enfant et un enfant qui va être percuté, comme tous les enfants à l'époque, par la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes d'origine, vos parents sont d'origine juive. Que se passe-t-il à ce moment-là, vous?
Oh, alors, origine juive, déjà, cette question me trouble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes parents sont nés dans des milieux juifs qui n'étaient pas religieux du tout, qu'ils étaient... J'étais marxiste, communiste. Mon père parlait pas le yiddish. Et cette question de savoir c'est quoi ma judéité, ma part de judéité, c'est une question que je me pose encore aujourd'hui. Parce que au fond de moi-même, je suis plein de choses différentes. Hein. Mon séjour dans une famille de paysans en Corrèze, dans laquelle je me suis totalement impliqué, fait que je suis aussi corrézien. Et voilà, donc... Je me pose toujours la question, lorsque j'étais plus jeune et que je montrais comme ça l'enthousiasme, l'engagement, je me suis demandé parfois si j'étais vraiment comme tout le monde, peut-être que c'est ce que j'avais vécu chez mes parents, l'engagement. Je retrouve ça un peu chez les gens du Sud, voilà.
Vous avez dit tout à l'heure que votre premier souvenir d'enfance, c'était votre mère qui vous demande d'envoyer quelque argent à un chanteur de rue. Et peut-être que ce souvenir est lié aussi à des engagements de vos parents pour les miséreux, les pauvres, le regard qu'ils portent sur une société qui va être bouleversée par la Seconde Guerre mondiale.
Alors, il faut que je revienne un peu en arrière. Donc, mes parents rêvent de l'Amérique, je vous l'avais dit, mais ils rêvent aussi... d'un monde différent. Et quand ils arrivent en France, mon père, qui était un grand sportif, fait tous les métiers d'abord. Il est soudeur, il est etc. Mais le soir, il donne des cours dans un club de gym des grands boulevards. Les gens venaient faire de la muscu. Et donc tous les soirs, il donne des cours de gym, un, deux, avec son énorme accent hongroise. Et voilà que à cette époque, les années 30, le Parti communiste commence à remporter des élections municipales, dont les élections municipales à l'est de Paris, à Bagnolet en particulier. Et lorsqu'ils ont fini par conquérir ces mairies, ils organisent la commune d'une façon évidemment totalement différente, sans doute un peu inspirée par ce qui se faisait en Union soviétique. Alors, chorale, théâtre, la gym, la cantine, les colos de vacances. Et ils cherchent des cadres. Et donc, un jour, un cadre de Bagnolet vient à la salle de gym, voit mon père qui excelle, et il lui propose de venir travailler à Bagnolet. Et mon père va devenir une sorte de ministre des sports de la commune de Bagnolet pendant 60 ans, ou presque, avec l'interruption de la guerre. Donc, il a un métier, il est animateur, et ma mère, elle... vient rejoindre son jeune frère, qui était déjà en France. Le frère aîné était parti aux États-Unis, et le reste de la famille, ses sœurs, ses nièces, ses parents, sont restés en Pologne. Et elle aussi milite dans des organisations juives progressistes, où on chante, on fait du théâtre, et ces gens tellement tournés à la fois vers un mieux-être de la société, l'art, se réunissent, c'est comme ça qu'on me l'a raconté, tous les samedis, tous les dimanches, en banlieue, à la vallée de Chevreuse en particulier, et ils font du théâtre, ils font du chant, ils refont le monde. Et c'est là que mon père rencontre ma mère, et qu'ils ont fait des bêtises, et que j'ai été conçu. Et il faut trouver un foyer à ce moment-là. Et donc mes parents sont accueillis par la commune de Bagnolet, on les loge, dans un dispensaire, je sais pas, c'est comme ça qu'on me l'a raconté. Et y a pas beaucoup de meubles, y a rien. Et je crois que mon premier berceau aurait été un tiroir de placard, un truc comme ça. Et voilà, ils font leur métier. Et le parti, j'avais dit, acquiert une grande propriété dans l'île d'Oléron, qui va devenir la colo de vacances de Bagnolet, et mon père en deviendra le directeur. Et nous irons pendant des années l'été à Bagnolet, dans la colo, une colonie qui avait été fondée par le maire adjoint, un ancien, je crois qu'il était ancien ouvrier plombier, poète à ses heures, et ce sera organisé là aussi, très politiquement. Alors, si ça vous amuse, je peux vous chanter la chanson qu'avait composée Delavoye, le poète plombier,
qui vous dira en
quelques sons l'ambiance qui règne. Alors, j'y vais.
Allez.
Les gosses de Bagnolet ne sont pas délaissés, Depuis qu'à la mairie de l'ordre a été mis, les élus ouvriers ont bien su apprécier ce qu'il fallait aux enfants pour qu'ils soient tous contents de l'air de la gaieté. Tant qu'il faut à manger, il reste que les copains qui sont restés au patelin. C'est nous, les gosses de la vignerie, qui bien loin du mauvais air font un séjour à la mer. Les gosses de riches en meurent d'envie, le séjour est tellement bon à Oléron. Et c'est bien grâce aux communistes si les enfants sont si joyeux. Voilà.
Bon,
voilà.
On ne serait pas censuré, Marc. Mais on retrouve d'ailleurs de très belles photos de cette période dans le livre que Éric Germain vous a consacré dans du design à l'architecture. On vous voit enfant dans cette colonie que vous décrivez et chantez si bien.
Oui, d'ailleurs, il y a une de ces photos où je dois avoir 5 ou 6 ans en training, comme on disait, et je lève le poing rouge, bien sûr. Et donc, mes parents s'installent. Ils louent un petit pavillon dans lequel nous allons habiter, un étage d'un petit pavillon rue Béranger à Bagnolet. Je vais grandir là, puis ils s'installent avenue Pasteur, un pavillon un peu plus grand dans lequel on va vivre de nombreuses années jusqu'à l'arrivée de la guerre. Alors, l'arrivée de la guerre, elle nous surprend à l'île d'Oléron. Les Allemands occupent la France, la colo est installée et elle décide en 1939 de pas rentrer à Paris. La chose est trop dangereuse. Et donc, les enfants, je crois qu'il y avait 400 ou 500 enfants, leur encadrement décide de passer l'hiver à l'île d'Oléron en s'organisant difficilement. Les locaux s'y prêtent pas très très bien. Et mon père, lui, s'engage dans la Légion des volontaires d'étrangers. C'est une légion proche de la Légion étrangère, mais qui avait pour particularité d'être, sont des engagés non, bon, sont pas des délinquants, sont pas des gens qui fuient, mais c'est des gens qui veulent servir la France, que fait mon père. Et il sera donc légèrement blessé sur le front et il nous rejoindra à l'île d'Oléron en 40. Et à ce moment-là, la France est occupée et les autorités de Bagnolet décident que la colo va rentrer à Paris. On va tous rentrer à Paris. Et j'ai un deuxième souvenir, lui aussi, très précoce. On est à La Rochelle, dans un hôtel, logé je ne sais comment, et je regarde par la fenêtre et je vois les voitures des officiers allemands qui circulent, premier contact avec les Allemands, et nous rentrons donc à Paris. Le parti demande à ses cadres, dont mon père, de rester en place. Partout où ils le peuvent, on va noyauter. Ils se font faire des faux papiers en 40, donc l'année 40 se passe à Paris, 41, mais là commence une période vraiment dangereuse. On commence à rafler les Juifs. Mes parents, grâce à ces papiers, réussissent à échapper à l'arrestation. Et mon père fait à ce moment-là connaissance avec un pasteur protestant, le pasteur Joulot. Il sympathise. Le pasteur Joulot avait une petite usine. Il avait un moyen. Il invitait d'ailleurs mon père dans des restaurants du marché noir où on mangeait encore très très bien. Et puis, je crois que mon père fait à la fois une petite crise mystique, religieuse, peut-être aussi pour me protéger, et décide de, conseillé par le pasteur Joulot, que j'irai au temple le dimanche. Et j'irai donc écouter, et ça me plaît énormément, j'avais 7-8 ans, et j'aime ça. J'aime cette ambiance un peu comme ça, spirituelle, un peu exaltée. Et je lirai la Bible, beaucoup, le Nouveau Testament, évidemment, beaucoup, beaucoup. Et lorsque la situation devient très dangereuse, j'habiterai chez le pasteur pendant quelques mois, comme un membre de la famille. Et cette ambiance à la fois d'austérité, de sérieux, m'a aussi, je crois, influencé.
Ce mélange que vous décrivez à l'instant d'austérité, et précédemment vous avez chanté une chanson de colo, ça rend sensible à nos oreilles quelque chose de votre personnalité, austérité, liberté.
Je crois pouvoir dire que l'importance donnée à la vérité des choses que je trouvais à la fois chez le pasteur rejoignait au fond ce que mes parents pensaient. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, il faut être vrai. C'est pas très éloigné, tout ça. Alors, ça s'est combiné dans ma tête et ça, beaucoup plus tard, peut-être donné lieu à ma recherche de l'authenticité dans ce que je dessine, ce que je construis, surtout. Je crois qu'il y a certainement un lien.
Alors avançons dans cette période dramatique tout de même, qui fait que vous allez, avec votre mère, aller en Corrèze, où vous allez chercher refuge.
Oui. Alors, il faut raconter comment, dans cet abri provisoire que nous avions à Bayonnais, dans le pavillon de l'avenue Pasteur, un événement va précipiter les choses. Mon père restait au gymnase. Le gymnase, c'était sa vie tous les soirs. Il rentrait à minuit après avoir rangé le matériel. Comme il disait, rangeons le matériel. Et ma mère est à la maison. Je rentre de l'école, elle n'est pas là. Je suis devant la porte, j'attends, et elle n'est pas là. Vers 11h du soir, je suis toujours devant la porte, j'attends, elle arrive un peu affolée, elle raconte ce qui s'est passé. Elle était dans le métro, car elle, pour arrondir les fins de mois, elle cousait des éléments de vêtements que son frère le plus jeune montait, il était tailleur. Évidemment, juif tailleur. Et elle est dans le métro avec son ballot. Un type l'interpelle en disant « Vos papiers, madame ?» Elle montre ses papiers et dit « Madame, vous êtes juive ?» Elle avait un accent. « Non, monsieur, je ne suis pas juive. » Et « Avec moi au commissariat. » Et ils vont au commissariat. Il y a la foule, elle attend, elle a peur. Et son tour vient. Elle rentre dans le bureau du commissaire sans... l'inspecteur qui l'avait appréhendé, et le commissaire lui dit « Montrez-moi vos papiers ». C'était les papiers qui avaient été réalisés par les camarades du parti. Et il dit « Madame, vous êtes juive ?» Elle dit « Mais non, monsieur, je ne suis pas juive. » Il la regarde, il dit « Écoutez, madame, prenez cette porte, partez, disparaissez ce soir. »
Donc là, pardon. Marc Held, mais nous sommes en 1942.
Nous sommes en début 42.
Oui, c'est ça.
Ouais. On avait réussi à passer entre les mailles du filet jusque-là. Et donc, elle rentre à la maison, elle me retrouve, mon père arrive du gymnase, et aussitôt, nous allons nous cacher dans ce gymnase qui était en demi-sous-sol. Et dès le lendemain matin, ma mère et moi sommes amenés... rue Béranger, dans le pavillon dans lequel nous avions vécu. Et on doit habiter chez une madame Avina qui allait nous garder. Cette madame Avina, qui portait bien son nom, qui picolait beaucoup, devient menaçante. Chaque jour, elle demande un peu plus d'argent et il va falloir quitter les lieux. Et mon père décide que nous allons partir... nous abriter en Corrèze, dans ce qui était à l'époque la zone libre. Je rappelle que la France était divisée en deux. Et donc, dans cette zone libre, où mon oncle, le frère le plus jeune de ma mère, lui, s'était réfugié. Il avait été dans l'armée française. Il avait la nationalité française. Et son régiment avait été interné en Suisse. Sa femme, sa fille et sa belle-mère russe, qui ne parlait pas un mot de français... était à Paris sans ressources et il décide de rentrer pour les soutenir. Et au régiment, il avait fait amitié avec un type qui s'appelait Serindou, un Corrézien, qui lui avait dit si un jour, etc. Et donc mon oncle était reparti en zone libre, aidé par mon père, déguisé en cheminot sur une cheminée qui passait de la ligne de la zone occupée à la zone libre. Et ensuite, ma tante, sa petite fille et la belle-mère étaient passées en zone libre avec l'aide de mon père et des camarades du rail et avaient rejoint mon père, mon oncle en Corrèze. Et donc mon père décide que nous allons aller en Corrèze, il faut nous abriter. Donc il affrète une 11 légère avec un gazogène parce qu'il n'y avait pas d'essence. Et dans un petit café de province, je crois que c'était à Coulon, je ne sais où, dans le Loiret, il remplit avec ma mère des fausses cartes d'identité. Il fallait un témoin, c'est moi qui ai signé d'un nom d'emprunt. J'ai encore cette carte d'identité. Et on nous met, ma mère et moi, dans une voiture. Mon père, je suis supposé être... Même encore aujourd'hui, je ne m'y retrouve pas. Alors, je suis fils de mon père, mais pas le fils de ma mère. Elle s'appelle Rigolier. Et on va donc aller en Corrèze. Mais je dois quand même raconter l'histoire de la carte d'identité. Pourquoi Rigolier ? Alors, mon père, dans sa salle de gym, recevait parfois des clients privés qui voulaient maigrir. Et il avait reçu un énorme bonhomme qui s'appelait Cabrol. Cabrol est énorme et mon père le traite, je le vois encore, dans une sorte de boîte en caoutchouc avec une lampe à pétrole au sol qui chauffait et la tête de Cabrol qui émergeait, qui transpirait. Mon père devait faire de la gym. Et Cabrol, maigri, devient Al Cabrol, oh, l'homme le plus fort du monde avec des grandes affiches. Et il est copain de mon père. Et mon père se confie à lui. Alors on pense aujourd'hui que Cabrol devait être souteneur en même temps. Et il donne rendez-vous à mon père dans un café des Grands Boulevards avec une jeune femme. C'est comme ça que mon père me l'a raconté. Il s'assoit et cette jeune femme confie sa carte d'identité au nom de Rigolier à mon père. Mm-hmm. Et donc ma mère se nomme Rigolier. Mm-hmm. D'ailleurs, après la guerre, mon père l'a recherché. Activement, il a fini par retrouver une Rigolier qui était sans doute... Elle, il l'a appelée, elle a fait semblant de ne pas se rappeler de rien. Elle s'était probablement réhabilitée. Et nous avons donc une carte d'identité Rigolier que je signe. Nous montons dans cette 11 légère, on fait la route et on fait répéter ma leçon. Je suis le fils de mon père, mais pas le fils de ma mère. J'ai une couverture sur les genoux, je suis censé être malade pour qu'on ne m'ennuie pas. Et lorsque nous arrivons à la ligne de débarcation, dans l'attente, évidemment, d'être interrogé par les Allemands. Il n'y a plus d'Allemands. En fait, les Allemands venaient d'occuper la zone libre. Mmh. Et nous arrivons en Corrèze, chez mon oncle, dans un petit village qui s'appelle Chantex. Mon père nous laisse là, rentre à Paris, car il avait continué son travail à Bagnolet, avec un nouveau maire, M. Goulot, qui est un catholique, fervent et antiraciste et qui protégeait mon père. Et donc, ma mère et moi restons là un mois, puis mon père revient, il nous faut chercher un logement. On ne peut pas rester là indéfiniment avec mon oncle, qui était devenu tailleur du village d'ailleurs, on l'aimait beaucoup. Et j'ai le souvenir là, encore une fois, un peu précis. Alors là, j'ai quoi, 11 ans à peine. C'est la fin 41, je pense. Ouais, c'est fin 41. Il fait froid, il y a un peu de gel sur le sol et on va à pied de ferme en ferme. Il n'y a pas de gros villages, il y a beaucoup de fermes isolées et on demande, mes parents demandent, est-ce que vous nous loueriez une chambre, tu vois ? Et en général, les gens méfiants. On vient de Paris, on est des étrangers. Et on finit par arriver dans un hameau, une grande ferme, la plus grande ferme. C'est dimanche. Là, j'ai le souvenir également. On frappe à la porte, la grande ferme. Ils sont à table. Le pépé, la mémé, le fils, qui avait 5 ans plus que moi, la fille, qui avait une vingtaine d'années. Et mes parents demandent pour la deuxième fois. Et le pépé, un peu bougon, il fait ce personnage, comme ça, costaud, dit non. Et Marie, la fille de la maison, dit en patois. Quand je dis ça, j'en ai encore la gorge qui serre, elle dit « Prends le loup, papa, prends-les. » Et ils nous prennent.
Et ils s'appellent les
Miras. Et donc on s'installe dans une chambre, ma mère et moi, mon père rentre à Paris. Et puis une semaine après, on entreprend la vie commune avec cette famille de paysans qui va devenir ma famille, mon pépé, ma mémé. Ouais. Donc dans cette ferme où ma mère, le pépé, la mémé, Albert, le fils et moi allons vivre en une seule famille. On vivra en plus l'existence d'une exploitation agricole qui fonctionnait comme avant l'industrialisation. Tout se fait à la main. La ferme est totalement autonome. On se nourrit, on se chauffe, on trouve l'eau, le vin, le tabac. Tout est sur place. Et ma mère et le pépé, par exemple, partagent leur clope. Ils fument ensemble. On parle. Et une famille de paysans, en même temps éveillé relativement, politiquement, s'intéresse au monde. Et vous imaginez, à l'époque, l'image du juif telle que l'avait construite l'occupant et évidemment les collabos. Non, ils nous reçoivent. Ils n'ont pas peur. Ou ils ont peur, mais ils nous reçoivent quand même. Et ça, je trouve ça admirable. Et on vit la vie de la ferme. Pour moi, ça a été très formateur, l'exemple, encore une fois, de l'autarcie, l'autonomie. Ne pas faire appel aux artefacts, aux machines, être capable de se sustenter, ça va marquer, ça aussi, beaucoup, ce que je vais tenter de mettre en ordre en imaginant une société différente. En tous les cas, la vie se poursuit, je vais à l'école, j'apprends le patois, que je parle encore, et début 44, la situation de mon père devient intenable à Paris. Ses papiers sont plus suffisants, il décide de rejoindre le maquis dans les bois, dans la forêt de Blanchefort, le maquis en Corrèze. Et début 44, il nous rejoint et il rentre. Je suis évidemment fasciné. J'entends les discussions politiques, j'entends tout ça. Et je vais voir mon père au camp, sous les tentes. Il y avait d'ailleurs, curieusement, un prisonnier autrichien, fort bien traité, d'ailleurs. Et à un moment donné, le capitaine Jules, qui était lui aussi un ancien ouvrier, devenu officier des FTP, des francs-tireurs et partisans français, la résistance majoritaire de gauche, il faut encore le dire aujourd'hui, ont besoin d'un agent de liaison, quelqu'un qui porterait des plis d'un camp à l'autre dans les différents camps qui sont cachés dans les forêts. Et, incroyable encore aujourd'hui, je ne sais pas si je le ferais, mon père décide que ce serait moi. Et je vais donc, avec mon vélo, parcourir la campagne avec un pli caché dans ma chemise que je vais remettre aux différents camps. Avec un incident, en allant porter un pli à tulle qui était à 11 kilomètres, j'avais 11 ans et demi, hein, dans une descente, tout à coup arrive de l'autre côté de la descente un vélo monté par une femme et on se rentre dedans. Elle me rentre dedans, on tombe, j'ai la tête en sang, elle est évanouie. Ouais. Et je me réveille, mon vélo est évidemment, la roue est tordue, les paysans accourent, et arrive un camion de pompiers. Et le hasard avait voulu que ce soit la femme du directeur de la manufacture d'armes de Tulle qui travaillait pour les Allemands. J'entends dire. Et on me demande « Tu vas où ?» Et je raconte une histoire. Je raconte que je vais aller à Tulle voir mon cousin ou je ne sais quoi. Et on me bande la tête. Je monte dans le camion. On me dépose dans une rue à Tulle. Je rentre dans une maison. Je remets mon pli et je reviens à pied. Il y avait peut-être 3-4 kilomètres. Et là, je suis très, très mal. Et les paysans me recueillent, me couchent dans un lit. J'ai des hallucinations. Je suis mal. Il n'y a rien de grave, mais je suis mal. Mais j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et pendant ce temps-là, au camp, je ne suis pas rentré. Donc le camp décide d'armer un camion, un gros camion, avec un groupe de, dont mon père, évidemment, de FTP, et venir me chercher. Et le matin, il ne devait pas être très tôt, ma tête bandée, je repars à pied, sans mon vélo qui était complètement détruit, et sur la route, je croise le camion qui était venu me rechercher, on me ramène au camp, et à la libération au mois d'août, on aura besoin de héros, je vais donc être décoré, le jeune agent de liaison, blablabla, etc. Je suis cité à l'ordre de la 5e région militaire, on me remettra une médaille, et 80 ans plus tard, récemment, j'apprends que je suis décoré de la Légion d'honneur à titre militaire.
Fait de guerre et
pour
courage.
Pour fait de guerre. Voilà.
Mais Mark Held, ça veut dire héros, non ?
Alors, en allemand, ça veut dire héros, ein Held, comme chez Wagner, hein, ein Held. Ah.
Bien. À suivre demain le second épisode de cette conversation. Et là, on évoquera le nid de l'enfant d'émigré et votre jeunesse. C'était À Voix Nue, une série de Sylvie Goudbaron avec Mark Held, à la réalisation de Thomas Duterre, prise de son Laurent César et chargé de programme Daphné Abgral. Une série disponible sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.